Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission préparée par Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Aliette Ovin. À la réalisation, Anna Holweck, prise de son, Jean Frédérics.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Deuxième épisode de notre série consacrée aux vestiges du colonialisme. Hier, nous avons examiné les ambivalences de l'aide au développement. Aujourd'hui, c'est le débat autour du très contesté franc CFA qui va nous intéresser. Cette monnaie commune à 14 pays africains a été accusée le mois dernier par le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio de paupériser l'Afrique et d'être responsable de l'afflux de migrants sur le vieux continent. Une déclaration qui rejoint la gronde de nombreux citoyens africains pour qui le franc CFA, créé en 1945 par un décret signé par le général de Gaulle, constitue aujourd'hui le dernier avatar de la colonisation française, plus de 50 ans après les indépendances. Alors le CFA est-il un frein au développement ou au contraire un facteur de stabilité pour les pays africains ? Quelle est son histoire et peut-on aujourd'hui le réformer, voire même l'abandonner ? Voilà les questions qui rythmeront notre débat du jour. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons interroger la survivance du franc CFA en compagnie de Martial Zebelinga, chercheur indépendant en économie et en sciences sociales, co-auteur avec Kako Nouboukpo, Bruno Tunnel et Demba Moussa Dembélé de « Sortir de la servitude monétaire à qui profite le franc CFA » paru à la dispute. En compagnie également de Fanny Pigeot, journaliste, collaboratrice à Mediapart et autrice avec Dongo Sambasila de « L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA » paru à la découverte. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade. Martial Zebelinga et Fanny Pigeot, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va d'abord écouter Luigi Di Maio, vice-premier ministre italien et chef de file du mouvement 5 étoiles.
Si aujourd'hui nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Il existe des dizaines de pays africains pour lesquels la France imprime leur propre monnaie, la France des colonies, et c'est avec cela que la dette française est financée. Si la France n'avait pas de colonies africaines qu'elle appauvrit, elle serait la 15e puissance économique mondiale et au lieu de cela, elle figure parmi les principales en raison de ce qu'elle fait à l'Afrique.
Voilà des propos particulièrement offensifs qui ont provoqué une crise diplomatique entre Rome et Paris. Comment interprétez-vous, Martial Zebelinga, cette déclaration de Luigi Di Maio ?
Alors... C'est une déclaration qui est, en tout cas, qui a tout son intérêt. Elle s'inscrit dans les relations franco-italiennes, très clairement. Et donc, c'est quand même dans un jeu de relations franco-italiennes que cette réflexion, en tout cas, a été faite. Pour ce qui est du franc CFA, en tout cas, pour tout ce qui est de la relation entre le franc CFA et les migrations, ce qu'on peut dire de façon à peu près, je crois qu'il y a un large consensus, c'est que dans l'ensemble, tout n'est pas vrai, c'est évident, ce n'est pas une réflexion, comment dire, qu'on pourrait sous-peser scientifiquement, etc. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a dans cette proposition une inversion de la relation habituelle qu'on fait entre la migration et l'Europe. C'est-à-dire qu'on se dit, en général, la migration, c'est des Africains qui vivent mal, etc., ou qui rêvent d'Europe, un peu comme dirait un certain Stephen Smith, avec un rare, un rare aplomb qui rarement coïncide avec le bon sens.
Et tout à coup, la responsabilité française est pointée du doigt.
Pas seulement française, parce qu'il a dit la France et des pays d'Europe. C'est pas simplement que la responsabilité française est mise en avant. En termes de variables explicatives, ce qu'il dit et qui fait sens, c'est que les conditions dans lesquelles l'Europe entretient une relation avec les pays africains génèrent de la migration. Et ça, par contre, c'est une relation absolument intéressante, intelligente et de bon sens. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas simplement parce que c'est une ruée vers l'Europe, c'est pas un eurocentrisme. Ceux qui quittent l'Afrique quittent aussi parce que les conditions d'existence y sont extrêmement problématiques et elles sont rendues telles aussi par des politiques européennes. Et le franc CFA contribue bien évidemment, sans en être la cause... exclusive.
Donc pour vous, Luigi Di Maio a eu le mérite de mettre en valeur cette relation bancale entre l'Europe et le continent africain. Et c'est peut-être le signe, en tout cas, que le franc CFA, Fanny Pigeot, c'est toujours un sujet brûlant et peut-être même plus encore aujourd'hui.
Oui, alors effectivement, je rejoins ce que dit Marcia Zebelinga, c'est que Luigi Di Maio a eu des propos peut-être un peu excessifs dans un certain sens, mais en même temps très vrais, et il a eu le mérite de remettre en avant la question du franc CFA, qui est complètement ignorée par les citoyens européens, et aussi les citoyens français. Aujourd'hui, il y a très peu de gens en France qui savent ce que c'est que le franc CFA, et encore moins comment il fonctionne. Et on a vu avec ces déclarations qu'effectivement, ce sujet est revenu sur le devant de l'actualité. Il y a eu des articles dans la presse italienne, dans la presse portugaise, espagnole, et tous découvraient ce que c'était que le franc CFA.
Est-ce que c'est lié au fait que ces revendications, elles sont portées de façon plus forte aujourd'hui par les sociétés civiles dans un certain nombre de pays d'Afrique?
Alors effectivement, on assiste aussi depuis, on va dire, 2 ou 3 ans à vraiment une recrudescence des revendications sur ce plan-là. Et alors on va revenir sur les pourquoi et sur quoi portent ces revendications. Mais il y a une conjonction de propos qui sont tenus sur le franc CFA qui nous permet d'arriver à...
Une recrudescence, Marcel Zebelinga.
Vraiment une réaction, parce que la recrudescence qu'on observe aujourd'hui, c'est vraiment un regard eurocentrique et francocentrique, j'oserais dire. En réalité, le franc CFA est contesté dès son origine. On sait qu'il y a des députés déjà dans les années 40 qui étaient contre, on sait que des présidents étaient contre, et que ça a donné déjà lieu dans les années 60 à des manifestations. Il y a des économistes qui ont écrit, le plus connu c'est le professeur Chunjian Poemi, Monnaie, servitude et liberté, en 1979, mais ils sont un certain nombre à avoir écrit. Et ce qu'on observe réellement, c'est que dans le profil temporel de la mobilisation autour des questions de franc CFA, il y a une mutation qui se produit. C'est qu'effectivement, on a aujourd'hui plus des sociétés civiles, mais on a eu des ouvrages faits par les économistes, on a eu des mobilisations plus politiques, peut-être plus politiciennes, peut-être plus indépendantes, mais il faudrait surtout, à mon avis, se garder de penser que ce sont les mobilisations qui ont été visibles en France, notamment en 2017, qui sont vraiment le révélateur. Et moi, j'invite souvent mes amis journalistes à faire vraiment un travail sérieux. Moi, j'ai eu l'opportunité de participer à beaucoup d'émissions de radio dans les années 2010, avant même. Et j'ai toujours été frappé par une chose. Chaque fois qu'il y avait la question du franc CFA, le standard explosait. Donc, en fait, c'est une question qui a toujours été présente. Elle n'a pas été portée. Et aujourd'hui, elle est portée par deux catégories d'acteurs. Et c'est, je pense, important de le dire. Nous avons certes la société civile, mais on a aussi, depuis les années 2000, des gens qui sont, on va dire entre guillemets, dans les organismes, dans le système, dans les appareils politiques, qui ont pris le courage de porter cette question. Ça a été le cas de Mamadou Coulibaly, donc président de l'Assemblée, qui a été président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, qui a été également ministre des Finances. Ça a aussi largement été le cas de Kakou Mbukpo, qui a été ministre de la prospective dans son pays. Et c'était extrêmement, je crois que ça a été aussi des éléments extrêmement importants, qualitativement, même s'ils n'étaient pas les plus nombreux, parce qu'on s'est dit, mais on peut aussi avoir une critique interne de cette question-là.
Alors justement, on va essayer de comprendre dans quel contexte a été créé le CFA. Et pour cela, il faut revenir à l'instauration de la zone franc au début de la Seconde Guerre mondiale. Fanny Pigeot, c'est une zone franc qui est alors créée sur le modèle britannique.
Oui, on est dans un contexte à l'époque, donc on est en 1939, veille de la Seconde Guerre mondiale. On est dans un contexte de tension, de rivalité entre les grandes puissances, avec crise politique et économique sur le plan mondial, et une déliquescence du système monétaire, et notamment du régime de l'étalon or, qui jusque-là, enfin en tout cas jusqu'au début des années 30, était utilisé donc par la Grande-Bretagne, effectivement. Et la Grande-Bretagne, en 1931, choisit de créer sa propre zone monétaire autour de sa monnaie, la livre sterling, et ce qui va lui permettre de défendre sa monnaie, mais aussi d'organiser le commerce au sein de son empire monétaire. Et la France va suivre, donc en 1939, elle crée à son tour une zone franc qui est censée faciliter le commerce à l'intérieur de son empire colonial, puisque ça concerne à la fois ses colonies africaines, mais aussi asiatiques, dans le Pacifique, etc. Et l'objectif est à la fois de défendre la monnaie et donc d'organiser tout ce commerce intra à son empire.
Sachant que la Grande-Bretagne s'adresse aussi à des pays souverains. La zone comprend aussi des pays souverains, contrairement à la France.
Effectivement, la France, la monnaie française aussi beaucoup moins forte que la livre sterling à l'époque. Toujours est-il que voilà, l'objectif, c'est d'instaurer une sorte de protectionnisme et en même temps de développer le commerce à l'intérieur entre la métropole et ses colonies.
Et c'est quelques années plus tard, Martial Zebelinga, que le franc CFA est créé en 1945. Quel est alors le contexte économique ?
Juste pour dire que la zone franc est créée formellement en 1939, mais elle existait de fait bien avant. C'est-à-dire que les instruments qui caractérisent la zone franc, je pense qu'on va y arriver plus tard dans l'émission, donc j'anticipe à peine, désolé, mais les instruments qui caractérisent la zone franc, notamment le compte d'opération, il existe en fait depuis 1921, et on pense que son ancêtre serait autour de 1878 avec la Banque d'Algérie. Je le dis parce que on peut pas présenter la zone franc comme quelque chose qui apparaît comme ça ex nihilo en 39 ou dans les années 30. Il faut voir que elle a une longue histoire et cette histoire épouse complètement les contours de la colonisation française. C'est-à-dire que dès que les colons arrivent, à un moment donné, pour mettre les sociétés en culture, en exploitation, il va falloir avoir une logistique. Il faut avoir des gens qui travaillent pour vous. Alors c'est au début l'esclavage parce que la première banque centrale qui est la Banque du Sénégal, elle est créée en 1853. D'accord. Mais les premiers jetons coloniaux, c'est 1825 par là. C'est juste pour dire que quand on arrive en 1939, il y a déjà toute une histoire et une histoire monétaire qui a consisté principalement à faire sortir, à expulser les monnaies locales et les monnaies endogènes, c'est-à-dire quelque part à progressivement arrêter le processus endogène de production de monnaie et d'économie locale et l'intégrer tout doucement à l'Empire. Et donc 1939 va caractériser donc l'officialisation et la structuration de ce mouvement, simplement parce qu'il y a l'entrée en guerre, c'est vrai, il y a les conséquences de 1929, la grande crise, qui a amené les grands pays en fait à se dire, puisqu'on ne peut pas échanger, on ne peut plus gagner à l'échange à l'international, eh bien on va structurer nos espaces d'influence pour pouvoir échanger à l'intérieur, nous approvisionner en matières premières, etc. C'est donc comme ça qu'on arrive à 1939. Et après, évidemment, en 1945, c'est en fait quelque chose d'assez particulier parce que ça ressemble à la fois à une mutation un peu technique, technicienne, parce que de toute façon, les pays concernés par la zone franc sont des colonies. Donc, de toutes les façons, leur seront appliquées des politiques coloniales. Caractérisé par quoi ? Par le drainage des ressources, principalement, l'utilisation des êtres humains pour la guerre, pour toute forme de servitude.
Et autant en Asie du Sud-Est qu'en Afrique, il faut le préciser.
Absolument. Mmh. C'est dans l'ensemble de l'espace zone franc, sauf qu'en 1945, ce qui va se passer, c'est que la création du franc CFA va répondre à une nécessité. C'est-à-dire qu'après la guerre, comme vous savez, le système mondial, financier mondial, s'effondre. Le franc a perdu beaucoup de sa valeur. Le franc qui est à l'époque utilisé en métropole, mais également dans les colonies africaines. Il n'est pas utilisé dans toutes les colonies, mais dans beaucoup de colonies, il est utilisé. Alors, comme il s'effondre et que, en fait, il y a une inflation qui est plus importante en métropole que dans les colonies africaines, des études sont faites, la décision est prise de changer, en fait, de rompre le principe qu'on appelait l'unicité monétaire, c'est-à-dire on n'aura plus la même monnaie en métropole et en Afrique, parce qu'en fait, il faut déclarer des nouvelles monnaies au système de Bretton Woods. On dit, on change de système en 44, donc chaque pays doit déclarer la monnaie qu'il va soutenir, qu'il sera capable de défendre sur les marchés internationaux, sur l'échange. Et donc, ils se disent, si on garde la même monnaie pour la France et pour les colonies, ceux qui ont des francs dans les colonies, en fait, ils perdent de l'argent, parce que s'ils veulent rapatrier leur argent, eh bien, il y a tellement d'inflation en France métropolitaine, qu'en réalité, ils perdent de l'argent. Donc, on va leur maintenir leur pouvoir d'achat, pour ceux qui sont dans les colonies. Et donc, on va avoir une monnaie pour la métropole qui sera différente de la monnaie des colonies.
Mais du côté de Paris, c'est plutôt présenté comme une volonté de ne pas faire subir justement à ces colonies son propre appauvrissement qui est lié à la guerre.
C'est exactement ça. C'est un des aspects. C'est-à-dire que c'est un aspect, de mon point de vue, c'est un aspect qui est surtout un aspect technique parce que tout le monde n'est pas d'accord en fait. On discute beaucoup pour savoir. Alors c'est vrai que c'est fait très discrètement, mais tout le monde n'est pas d'accord pour ce changement. D'autant plus que, de mon point de vue, le rapport de force qui existe à cette époque-là, il n'est absolument pas question de décoloniser. on aurait créé le franc CFA ou on ne l'aurait pas créé, qu'on aurait continué la colonisation et qu'on aurait continué les mêmes objectifs de la colonisation, puisque une colonisation, sa fin, c'est principalement de tirer un maximum des colonies. Donc, effectivement, on dit on ne veut pas appauvrir ceux qui détiennent des francs dans les colonies. Mais il ne faut pas oublier une chose, ceux qui détiennent des francs à cette époque-là, c'est qui ? C'est les colons.
Ce n'est pas une volonté de ne pas appauvrir les pays et donc les populations locales.
Ça n'a rien à voir. Les indigènes ne comptent
pas. Mais c'est présenté comme tel.
C'est présenté comme tel, mais c'est pas toujours explicite. On dit c'est pas appauvrir les colonies, mais dans l'esprit de l'époque, les colonies, c'est l'empire. Et ceux qui gagnent de l'argent, en fait, ce sont les colons. En fait, les indigènes ne comptent pas.
Donc ça arrange véritablement la France, Fanny Pigeot, à ce moment-là, de créer un franc CFA qui soit surévalué par rapport au franc.
Oui, parce que le but du jeu, c'est aussi de réorienter les flux commerciaux de ces colonies vers la métropole, parce que pendant la guerre, elles se sont les colonies ont vendu de plus en plus aux pays alliés, par exemple, et donc du côté les flux commerciaux dans le sens colonie vers la métropole ont baissé. Et or, au sortir de la guerre, l'économie de la France est dans un état pitoyable. Et pour la relancer, la métropole, le gouvernement français a besoin des ressources, des matières premières des colonies, et donc de réorienter ce flux vers elle. Et puis dans le même sens, elle a aussi besoin de débouchés pour les produits de ses entreprises. Et donc un franc CFA surévalué va permettre de rendre moins cher ses importations ou ses exportations françaises vers les colonies. Et donc relancer en partie l'économie française.
Alors on va voir les principes qui ont présidé à la création de ce franc CFA et voir pourquoi il est aujourd'hui contesté. Écoutons d'abord l'économiste Kako Nubukpo, ancien ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques au Togo.
Le franc CFA, c'est une monnaie qui est gérée de Paris, par Paris et pour Paris. Parce que c'est une monnaie qui permet à Paris quand même de préserver son précaré en Afrique. La preuve, il y a quelques jours, il y avait la réunion des ministres des Finances de la zone franc à Bercy. Et c'est ce que j'appelle la route de la servitude volontaire, qui consiste aux ministres des Finances africains à venir faire allégeance à Bercy devant le ministre français des Finances et continuer ensuite à Washington pour les sessions d'automne du FMI et de la Banque mondiale, où ces ministres vont faire allégeance à Washington aussi. Donc c'est la route de la servitude volontaire. Nos banques centrales de la zone franc ont acquis leur indépendance vis-à-vis des États africains, mais pas vis-à-vis de Paris, puisqu'elles doivent passer par Paris pour accéder à Francfort, où se trouve la Banque centrale européenne. Il n'y a aucun accord entre la Banque centrale européenne et les banques centrales de la zone franc. C'est d'ailleurs une hérésie. Autre chose qui va vous paraître surprenant, c'est que les billets CFA sont fabriqués en France. Il n'y a aucune usine de fabrication de billets CFA en Afrique.
Un extrait d'une interview diffusée le 1er novembre 2016 sur France Inter. Alors Kako Nubukpo soulève beaucoup de questions ici auxquelles on va tenter de répondre progressivement. Et d'abord, Martial Zebelinka, quels sont les avantages pour la France de cette permanence du franc CFA ? Fanny Pigeot parlait des matières premières, mais c'est aussi un outil diplomatique particulièrement important.
C'est peut-être d'abord l'avantage, en tout cas, le plus important, je dirais pas, mais en tout cas, la dimension politique et diplomatique a toujours été présente dans la gestion du franc CFA. Déjà, à l'origine du franc CFA. C'est-à-dire que l'argument technique consistant à dire il y a des différentiels d'inflation entre la métropole et les colonies, donc on peut faire un réajustement, donc réévaluer la monnaie des colonies, c'est un argument qu'on peut entendre économiquement. Simplement, il se trouve que les colonies n'avaient pas entre elles les mêmes différentiels d'inflation. Mmh. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y avait beaucoup plus d'inflation qu'en Afrique dite équatoriale. Donc si on avait conservé une logique purement économique, on n'aurait pas gardé le même franc en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc on voit bien que ce qui va présider aussi à la création du franc CFA, c'est la logique de l'empire. Homogénéiser l'empire pour les acteurs économiques de la métropole. On le voit plus tard avec la dévaluation de 1994, où tous les pays ne sont pas au même niveau de déficit, au même niveau de déficit en termes même de devises, donc en termes de comptes d'opération.
On va
pourtant
y revenir.
Là encore, voilà, on va appliquer exactement la même règle, c'est-à-dire que pour garder l'empire tel quel, eh bien la monnaie continue de jouer un rôle extrêmement important. Et elle joue ce rôle important parce que elle continue d'agripper les ressources et les acteurs africains aux acteurs français. La facilité à faire des affaires, à faire à avoir des échanges, etc. Il y a des anciennes routes, justement, de servitude qui touchent le cacao. Il y a des anciennes activités prédatrices sur le pétrole, sur l'uranium. Et on sait bien que si on fait un changement monétaire brusque, ou n'importe quel changement, il va y avoir des coûts. C'est-à-dire qu'il va y avoir des problèmes de change qui vont se poser, qui se sont posés déjà à la dévaluation de 45 ou de 48. Voyez. Donc, c'est pour moi, effectivement, le plus important, peut-être, c'est la dimension géopolitique et les gains géopolitiques qu'on tire de cet espace, sans préjudice, évidemment, des avantages économiques que la zone apporte.
Donc des avantages politiques, géopolitiques, économiques du côté de la France, mais maintenant du côté des pays africains qui utilisent le franc CFA, la question qu'on peut se poser, c'est la pertinence de cette monnaie pour les économies africaines et l'argument de la stabilité est souvent avancé pour défendre le franc CFA. Sur quoi s'appuie cet argument, Fanny Pigeot ?
D'abord, je voudrais juste revenir un petit peu en arrière. Il ne faut pas oublier aussi que le franc CFA est toujours là aujourd'hui parce qu'en 1960, au moment des indépendances, la France a effectivement accordé l'indépendance aux pays africains, mais en leur disant, en échange, vous devez signer un certain nombre d'accords qui étaient à la fois culturels, commerciaux, militaires et monétaires. Et donc, vous prenez l'indépendance politique, mais vous restez dans cette zone franc et vous continuez à utiliser le franc CFA. C'est ça aussi qui fait aussi qu'aujourd'hui, on en est toujours là. Et voilà, cette dimension géopolitique, effectivement, elle était très présente à l'époque, puisqu'il y avait aussi des accords militaires.
Une pression française importante à l'époque.
Oui, qui n'a pas changé. Donc, les principes de départ qui ont présidé à la naissance officielle du franc CFA sont toujours les mêmes aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas eu de modification. Alors, peut-être qu'on va les citer, là, les quatre grands principes. Il y a la fameuse parité fixe du franc CFA avec l'euro. Autrefois, c'était le franc français jusqu'au passage à l'euro en 1999.
Donc, il y a une valeur d'échange fixe.
Voilà, un ancrage fixe. Il y a la liberté des transferts, c'est-à-dire que les capitaux circulent librement au sein de la zone franc. Il y a aussi la centralisation des réserves de change, c'est-à-dire que les pays africains de la zone franc ont l'obligation de déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français dans ce qu'on appelle le compte d'opération, qui est un compte spécial du Trésor français. Et cette centralisation des réserves de change, elle permet officiellement d'assurer la convertibilité, la France en échange donne une garantie, c'est-à-dire qu'elle promet une garantie de convertibilité illimitée. Elle s'est engagée en signant les accords monétaires à prêter autant d'euros, de francs CFA d'euros aux pays africains de la zone France au cas où leur réserve de change baisse trop et mettrait du coup en péril la parité fixe.
Mais alors n'allons peut-être pas trop vite, justement. Peut-être voyons d'abord, Martial Debellinga, les problèmes que pose justement cette fixité du taux de change. C'est ce qui permet la stabilité d'un côté, mais cela pose d'autres questions.
Ça pose d'autres questions. Alors, j'ai envie d'être un petit peu indiscipliné et faire comme Fanny Pigeot tout à l'heure, qui a soulevé une question importante. Est-ce que vous permettez ?
Je vous en prie.
Voilà, vous voyez, je suis indiscipliné, mais gentil. Donc, en fait, quand Fanny Pigeot pose la question des années 60, c'est vraiment extrêmement important de comprendre que cet espace qu'on appelle espace franc, qui n'est pas une vraie zone, puisqu'on a on a des monnaies qui ne s'échangent pas entre elles. Hein, le franc CFA d'Afrique centrale, il ne communique pas, il ne s'échange pas avec le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Et les deux francs CFA ne sont pas utilisables en France, qui est pourtant le garant. Donc c'est vraiment une vraie fausse zone, de ce point de vue-là. Et puis si vous prenez les échanges financiers, il n'y a quasiment pas d'échanges financiers, très très peu, entre la zone Afrique de l'Ouest et la zone Afrique centrale. Donc quand on utilise le terme zone franc, très honnêtement, on est dans une forme d'absurdistan intellectuel. Déjà, le franc n'existe plus, donc on ne peut même plus parler de zone franc. Mais très concrètement, la notion de zone laisse penser à une intégration qui n'existe pas dans les faits. Mais surtout, dans les années 60, qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça que c'est important quand même de regarder l'ensemble des dimensions qui font la complexité du débat. Il y a une vraie question politique, mais il y a une vraie question démocratique. C'est-à-dire que jamais les institutions comptables du franc CFA n'ont eu de rapport avec les institutions démocratiques. En 1960, sont signés un ensemble d'accords avec des pays. Alors certains sont des accords groupés, par exemple le Tchad, Centrafrique, ils vont avoir un accord. Le Cameroun va avoir un accord à lui, le Gabon va avoir son accord. Bon, c'est assez bizarre. Mais ce qui est particulier sur la question monétaire, c'est que quand vous regardez les accords de 1960, les accords de 1960 disent que la France reconnaît aux différents pays la possibilité de créer leur propre monnaie indépendante et d'avoir des institutions pour émettre leur monnaie, battre leur monnaie. C'est en 60. Quand vous regardez les conventions de 1972, eh bien, on ne parle même plus de cette possibilité que les pays en 60 étaient censés avoir, c'est-à-dire battre leur monnaie, créer leur monnaie,
et
avoir une politique.
Comment expliquez-vous ce retour en arrière ?
Attendez, justement, on a fait que des retours en arrière dans cette histoire. En 1998, ce qui se passe, c'est pour ça que je dis qu'on n'a plus une monnaie coloniale. On a une monnaie hyper coloniale. Parce que depuis 1998, ce qui se passe le 23 novembre 1998, c'est que le Conseil de l'Europe dit, il émet une décision qui est tout à fait publique, et il dit voilà, j'accepte en gros de garantir le franc CFA. J'accepte que le franc CFA ait comme monnaie d'ancrage l'euro. Donc l'euro dépend de l'Europe, donc à savoir la Banque Centrale Européenne, mais avec décision de la Commission et du Conseil Européen, chose normale. Et dans ce document, l'Union Européenne s'adresse à la France. Les États africains ne sont même pas pris en considération. C'est-à-dire que la décision d'ancrage de l'euro ou du franc CFA à l'euro se fait dans un rapport et dans un discours entre l'Union européenne et la France. La fin de ce document
sans jamais
dit
aucune consultation des États
sans
africains.
Sans aucune
jamais.
Consultation des États, et je ne parle même pas des peuples.
Peuples.
Et le texte termine en disant « cette décision s'adresse à la France ». Donc on parle de 15 pays africains, ils ne sont même pas pris en considération. Et paradoxe, toutes les constitutions de ces pays précisent que la gestion de la monnaie est du ressort des parlements. Et vous avez un ensemble de traités qui disent que la monnaie est gérée par la Banque centrale, par les banques centrales Afrique de l'Ouest, Banque centrale d'Afrique centrale. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais justement, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que certains dirigeants africains, ils trouvent leur compte dans ce fonctionnement, et évidemment pas les peuples en l'occurrence, mais alors comment expliquer les avantages qu'ils trouvent un certain nombre de dirigeants ?
D'abord dire que les dirigeants africains trouvent leur compte, on peut le dire comme on pourrait ne pas. Il y en a qui ont dit qu'il fallait sortir, etc. Ce qu'on peut observer d'un point de vue historique et qui est concret, c'est que les premiers à avoir voulu sortir, et je ne voudrais pas anticiper, mais en tout cas, ils ont subi des représailles extrêmement sévères. Mmh. D'accord ? Ça a été le cas de la Guinée, ça a été le cas du Mali, ça a été le cas du Togo, avec un président assassiné, etc.
Donc vous ne parleriez pas de complaisance, mais vraiment d'une incapacité d'un certain nombre
Non, il y a plusieurs facteurs qui jouent. C'est-à-dire que il faut d'abord dire que cette monnaie s'implante, résiste à la décolonisation par la violence. Historiquement, c'est un fait. Ensuite, on a des régimes qui n'ont pas forcément toujours été les plus démocratiques et qui s'accommodent d'une situation qui finalement ne va pas énormément déranger les élites, puisque une monnaie qui a un pouvoir d'achat très élevé permet l'importation, permet d'avoir un train de vie dispendieux, permet les effets de démonstration que tout le monde connaît un petit peu avec une sociologie de base. Donc c'est vrai que ça permet de faire vivre une certaine élite, ça c'est évident. Et que avec le temps, c'est ce qu'on appelle les effets d'hystérésis, une institution qui a été créée dans des conditions peut-être pas démocratiques, elle prend des habitudes, elle essaye de perdurer, de trouver des justifications à sa propre existence. Et donc, on est resté dans cette logique-là, qui ne dérange pas tant que ça les nantis, parce qu'ils sont nantis et ils resteront, mais qui, effectivement, est un véritable frein pour l'épanouissement des peuples, à travers, en tout cas, l'élargissement de la base productive.
Fanny Pigeot, sur peut-être le fait qu'il y a eu beaucoup de retours en arrière et qu'au départ, en 1960, il y avait cette possibilité offerte aux États de battre leur propre monnaie et depuis des retours en arrière ?
Alors la possibilité était effectivement dans les textes, mais il est évident que dans la réalité, les responsables français n'avaient aucune intention de voir ce scénario se réaliser. Et alors effectivement, il y a eu début des années 60 un certain nombre de dirigeants qui ont émis des critiques, et puis ensuite plus rien jusqu'au début des années 70 où de nouveau... là, il y a eu contestation de la part de plusieurs dirigeants, des accords de coopération monétaire et des autres. Et là aussi, la France a louvoyé, a réussi à faire en sorte que les choses ne changent pas. Pas trop, il y a eu quand même quelques petites évolutions, on va dire cosmétiques, puisqu'on a africanisé le personnel, comme on dit, des banques centrales, dont les sièges étaient encore à Paris. Donc les deux banques centrales se sont déplacées, l'une s'est installée à Dakar, l'autre à Yaoundé.
Donc celle des pays d'Afrique centrale et celle des pays d'Afrique de l'Ouest.
Voilà. Mais dans la réalité, il est évident que la France n'a jamais eu l'intention de se séparer de cet empire monétaire. Alors il y a eu quand même deux expériences qui ont réussi au début des années 70, c'est-à-dire la Mauritanie Madagascar. Et là, si on voit comment les choses se sont passées, on se rend compte que pour la Mauritanie, les Français ont tout fait pour que ça capote, parce qu'ils n'ont pas du tout voulu porter leur aide à l'établissement d'une monnaie nationale pour la Mauritanie. Et puis pour ce qui concerne Madagascar, là, il y a eu une sorte de renoncement à un moment donné du président Pompidou de l'époque, qui estimait que Madagascar n'était pas très important ou intéressant économiquement, et donc a laissé filer Madagascar. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque, les dirigeants politiques de Madagascar étaient extrêmement, on va dire, intransigeant et ne voulait absolument pas d'un schéma en demi-mesure. Enfin, il voulait quitter la zone franc, voilà, c'est ce qui s'est passé.
Vous l'avez dit, Fanny Pigeot, en échange de la possibilité de convertir les francs CFA et comoriens contre de la monnaie européenne sans restriction, les avoirs extérieurs des banques centrales, donc des unions économiques africaines, doivent être déposés auprès du trésor français. Qu'est-ce que ce système, Martial Zabelinga, était censé permettre et quelles sont les conséquences de ce fonctionnement?
Alors j'hésite entre décrypter ce que ça veut dire cette garantie et redire ce que ça voudrait dire. En gros, si l'objectif du système, c'était de s'assurer qu'il y aurait une monnaie utilisable par les colonies, on va dire, et qui serait stable pour que déjà les actifs financiers, donc l'argent, les comptes des colons, des Français, en Afrique, bénéficient de cette stabilité. Parce que pour se projeter, pour faire des investissements, etc., on préfère que les choses soient, qu'il y ait moins d'instabilité, moins d'incertitude. Donc, ça permet aussi d'éviter, par exemple, ce qu'on appelle les frais de couverture. Les entreprises qui travaillent dans des environnements plus volatiles, eh bien, elles doivent investir pour savoir quelle part je vais garder en devise, quels actifs je vais utiliser, quels instruments financiers je vais utiliser pour couvrir. Donc, en fait, Le but de tout ce système-là, c'est de maintenir une parité fixe et donc de maintenir en fait les positions des entreprises françaises. Mais il faut savoir aussi que cette parité fixe, donc elle permet plus facilement aux acteurs français d'avoir des transactions parce que l'environnement est connu, on sait que ça changera pas demain, etc. Mais en même temps, il y a des effets de détournement de trafic vis-à-vis des autres pays, des pays qui ne sont pas de la zone, qui sont pas la France ou qui sont pas l'Europe aujourd'hui, mais qui pourraient être intéressés par la France, par la zone franc. Mais juste un mot, la garantie. C'est très important. C'est-à-dire que ce qui est présenté comme étant une garantie, c'est en gros de dire, vous déposez vos devises, on règle vos achats internationaux et on maintient votre monnaie à une bonne parité. Donc ça bougera pas. Tant que vous avez, vous mettez des devises.
Et cela vous permet de conserver des liquidités.
Ça vous permet, pas aux pays africains. Parce que les pays africains, ils déposent. Bon, avant, c'était 100%, après, c'était 65%, maintenant, c'est 50%.
Ça peut constituer un matelas de protection qui subsiste.
Voilà. C'est ce qui est, c'est présenté comme ça. Mais le paradoxe, c'est qu'en réalité, quand il y a eu la dévaluation de 1994, en fait, cette dévaluation, c'est parce qu'il n'y avait plus assez de réserves. Donc, à quoi sert la garantie et en quoi consiste la garantie finalement? Puisque l'intérêt d'avoir une garantie, c'est de dire précisément, si à un moment donné, je n'ai plus de réserve, la garantie prend le relais. Mais là, on voit que la garantie ne prend pas le relais. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, la parité, donc le taux de change, il est maintenu par les réserves africaines.
Et ça n'a pas été le cas au début des années 90.
Oui, non, ça a été le cas justement. C'est-à-dire que si c'était la France qui garantissait le taux de change, on n'aurait pas dévalué nécessairement, puisqu'elle aurait dit, bon, très bien, il n'y a plus de réserve africaine, moi, je vais mettre de l'argent dans le compte d'opération, et puis je me rembourserai quand ça ira mieux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc ça veut dire que l'idée d'une garantie, c'est une idée en trompe-l'œil. Il y aurait une garantie, la garantie joue réellement quand il n'y a pas d'argent dans le compte d'opération. Or, chaque fois, et quand il n'y a pas eu d'argent dans le compte d'opération, la garantie n'a pas joué, il y a eu dévaluation. Donc ce n'est pas une garantie, et il n'y a justement aucune raison que les Africains, finalement, mettent leur argent dans un espace qui est supposé garantir le taux de change, et qu'ils ne le gardent pas eux-mêmes et qu'ils ne le fassent pas eux-mêmes. Vous voyez ?
Et alors, pour bien comprendre, justement, je voudrais vous faire entendre l'économiste ivoirien Nicolas Agbou. Il explique comment les opérations extérieures des pays africains doivent transiter par Paris.
Avant 1973, tous les pays de la zone franc CFA, quand ils vendaient à l'extérieur, par exemple aux États-Unis, ils ont des recettes libérées en dollars. Et au Japon, en yens, en Chine, etc. Mais toutes ces recettes qu'on appelle les devises sont centralisées, sont déposées intégralement dans des comptes ici en France, dans des comptes d'opération, c'est-à-dire au trésor public français. Et un exemple, s'ils ont gagné par exemple 10 milliards ou bien 1000 milliards de dollars, l'intégralité est déposée ici en France pour le compte de la France. Maintenant, depuis 2005, au moment où nous parlons, c'est 50%. C'est-à-dire, s'ils ont eu, par exemple, 10 000 milliards de dollars, eh bien, la moitié des 10 000 milliards, c'est 5 000 milliards qu'ils déposent au trésor public français dans des comptes dits comptes d'opération.
Un extrait de l'Afrique enchantée sur France Inter le 16 avril 2012. Un dernier mot, justement, sur les conséquences de ces comptes d'opération pour les économies africaines, Fanny Pigeot.
Alors, ce compte d'opération, effectivement, il permet à toutes les transactions de ces pays africains avec l'étranger, c'est par là que tout passe, en fait. Ainsi que tout ce qui est conversion de francs CFA en euros et dans d'autres devises. Donc, tout passe par Paris. Et ça donne à Paris un pouvoir évidemment énorme, puisque d'abord d'information, ils savent exactement ce que font les États africains et avec qui et quand et dans quelle proportion. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un aspect extrêmement répressif dans ce système, parce que il est possible de bloquer les comptes d'opération, il est possible d'empêcher des opérations de se faire au besoin, et c'est ce qui s'est passé en 2011 avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a plus pu à partir d'un certain moment, pendant cette fameuse crise post-électorale qui opposait Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara, n'a plus pu faire de transactions à l'international, parce que tout avait été fait par les institutions de la zone franc, donc par le ministère français des Finances et par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, pour bloquer tout ça. Donc ça, les États africains le savent, les dirigeants africains le savent. Et effectivement, quand on dit que certains s'accommodent de ce système, mais en réalité, ils sont complètement coincés entre le marteau et l'enclume, mais ils n'ont aucune possibilité de sortie, à moins de s'allier, à moins d'avoir un certain nombre d'alliés en dehors de la France. C'est un système extrêmement répressif.
On va voir comment la politique effectivement monétaire africaine est extrêmement dépendante aujourd'hui de la politique monétaire européenne. On en parle dans un instant.
Avant que le feu de la révolution n'embrase la plantation, nous venons avertir. Avant que le mal de l'esclavage essaye encore de commettre l'éternel génocide prévu pour nos vies, nous venons ici dire devant le peuple de nos pays que la jeune génération du continent mère ne sera plus témoin de l'assassinat de notre dignité. Les grandes fanons nous la prophétiser. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la trahir.
Jamais tu ne reverras ton Dieu. Imagine qu'il n'y ait que lui qui décide quand tu es en faute. Reste tranquille, sinon c'est toute ta famille qu'il mettra à nu. Imagine qu'à chacun de tes pas, il te donne la direction. Faut le suivre ou c'est
il fera taire ton opinion. Arrêtons d'imaginer, c'est bien la réalité. Dans les pays d'Afrique où la France ne cesse de coloniser.
50 ans on l'armée à l'Occident. Pendant 50 ans nous apprend qu'on est dépendant. Franchement, c'est quoi notre liberté si on est toujours dépendant de cette monnaie qui a bouffé mon continent. La France a elle seule contrôle depuis des décennies le porte-monnaie de 100 millions d'habitants de 14 pays. Afrique, il est temps de stopper cette injustice. Brisons toutes ces chaînes de l'esclavage économique.
Une blabar, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrête. Ça, on en veut plus, on en veut plus. On est plus que convaincus. Ce ne sont plus les murmures, mais la clameur de l'âme. Une blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrête. On en veut plus, on en peut plus. On est plus que convaincus. Ce ne sont plus les murmures, mais la clameur de la rue.
Yo, hein, c'est la clameur de la rue, un cri trop longtemps réprimé des opprimés que t'as entendu. Éternel assisté, nos présidents sont vos valets. Crachons cette pilule, les indépendances que nos pères ont avalées. Souveraineté illusoire, économie sous perfusion. Comment peut-on prétendre être libre avec la monnaie du colon? Cet homme noir qui ne serait pas assez rentré dans l'histoire a décidé de se réinventer et d'être maître de son histoire.
Babylone, kill Gaddafi, million Gaddafi, comme Nemsen, Marcos, Gavio, ma million Marcos, comme Soldiers, Alain, Francais.
Cette minute contre le franc CFA par un collectif d'artistes maliens, béninois ou encore gambiens. Nous sommes toujours avec Martial Zebelinga et Fanny Pigeot sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. CFA, la devise qui divise, c'est notre sujet aujourd'hui. Alors on l'a vu, les pays africains n'ont pas la possibilité d'agir sur la valeur d'échange de leur monnaie. C'est ce qu'a prouvé la décision au début des années 90 de dévaluer de 50% le franc CFA contre l'avis de la majorité des dirigeants africains. Pour l'ancien directeur du Trésor et gouverneur de la Banque de France, Michel Candessu, il s'agissait alors d'une nécessité.
J'ai une certitude, c'est que si on n'arrive pas à refaire partir la croissance en Afrique, et ceci s'applique à l'Algérie d'ailleurs aussi, là, oui, vous êtes sûr que vous aurez le désordre, la décomposition du tissu social et l'émigration massive qu'aucune loi n'empêchera. Si vous voulez donner une chance à ces pays d'améliorer le niveau de vie de leur population et de croître dans l'ordre, il faut prendre des mesures de politique économique sérieuses. Elles viennent peut-être tard, on le dira certainement, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Pourquoi la France presse-t-elle les pays africains de dévaluer le franc CFA au début des années 90, Martial Zebelinga?
Tout simplement parce que le dispositif dont nous avons parlé, qui est le dispositif de compte d'opération, est tel que quand il n'y a plus de devise, quand il n'y a plus assez de devise dans le compte d'opération, soit la France joue le rôle de garant qu'on lui prête, mais dans les textes, ce n'est pas exactement ça qui est dit. Et dans ce cas, elle met de l'argent. Et il se trouve que à cette époque-là, on est en 93, il y a une doctrine qu'on appelle la doctrine Balladur qui veut que les pays africains respectent leurs engagements vis-à-vis du FMI, la Banque mondiale, et que s'ils ne le font pas, et ben la France les oblige à, en tout cas, ne renfloue pas les caisses. Donc concrètement, il faudra bien dévaluer à un moment donné. Ce qui se passe en réalité et qui est une vraie tromperie assez grossière, c'est que nous avons des économies. Ce n'est pas que la zone franc, il faut bien le dire, qui reste des économies dépendantes de deux grandes choses, en gros. Hein. C'est la conjoncture internationale des matières premières, quand les cours des matières premières vont, entre guillemets, tout va. Et on l'a vu pendant quasiment 15 ans avec le fort taux de croissance de l'économie chinoise et des économies émergentes. Ben les cours des matières premières ont été tirés vers le haut et puis on a eu une croissance importante des pays africains parce que les matières premières, ça, voilà, ça allait bien. L'autre grand facteur de variabilité en termes de PIB ou de richesse, c'est souvent les facteurs naturels. C'est-à-dire des pays qui sont très céréaliers, par exemple, selon la pluviométrie, selon des facteurs tout à fait naturels, on peut avoir une variation de la production et donc à l'arrivée avoir des voilà.
Donc ce sont ces deux facteurs qui causent l'inflation et non pas la politique monétaire.
Là, parce que c'était par rapport à la dévaluation hein, qu'il s'exprimait. C'est juste pour dire que la conjoncture dépend beaucoup de ces facteurs-là. Après, on va avoir aussi l'endettement qui va permettre à un moment donné de financer l'investissement public. Mais souvent, voilà, c'est aussi exogène. Donc en fait, sur la durée, on voit bien que c'est quand même des économies qui restent très coloniales, dans le sens où ce qui se passe dans la métropole et dans les économies industrialisées décide en fait de leur conjoncture à eux, hein, pour ce qui est de ces pays-là. Donc si on a une mauvaise conjoncture des matières premières, parce que là, par exemple, les Américains décident d'augmenter la production de pétrole et que ça divise par deux la croissance en zone CEMAC, donc en Afrique centrale, eh ben, on va avoir des problèmes de devise. C'est évident. Donc, ce n'est pas du tout lié à des questions de productivité interne. Mmh. C'est lié au fait que la conjoncture internationale, notamment des matières premières, et après d'autres facteurs souvent exogènes, peut changer radicalement la donne concernant les devises et la croissance.
Et justement, est-ce que de dévaluer le franc CFA, ce n'était pas une manière de relancer les exportations, notamment agricoles ?
Justement, c'est donc là qu'il y a le piège. C'est qu'en fait, ça ne change strictement rien. C'est-à-dire que les cours des matières premières, ils sont définis, ils sont pas définis par les Africains. Les cours des matières premières, qui sont les matières de rente, ils sont définis sur les bourses internationales. Ça veut dire que vous ayez de l'inflation en Afrique ou pas, vous pouvez avoir de l'hyperinflation au Congo, je peux vous dire que Samsung et les autres, ils iront quand même chercher le coltan. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça ne sert à rien de faire des politiques d'austérité et de répression du crédit, de répression monétaire, comme disait Chungjian, en disant on va réduire l'inflation à un maximum. Ça ne change absolument rien. C'est pas ça qui va vous faire vendre davantage. Ce qui vous fait vendre davantage, tant que vous êtes dans des matières premières, c'est le fait que les économies industrialisées ont besoin de vos produits. Et par contre, là où il y aurait un effort à faire, déjà, c'est de réduire les importations. Pour réduire les importations, il aurait fallu avoir un taux de change beaucoup plus faible, amenant les consommateurs locaux à privilégier l'offre locale. Et de cette façon-là, on pourrait diversifier la base productive, c'est-à-dire donner plus d'opportunités au secteur privé local, donc de développer d'autres activités, en ouvrant davantage le crédit. Mais le système CFA est fait de telle sorte qu'il produit de l'accumulation de réserves. C'est-à-dire que on stocke les réserves ou alors on renvoie les réserves sur le compte d'opération en permanence, c'est la priorité. Et du coup, le crédit local, le crédit interne, il est sacrifié dans cette logique-là. La logique de la politique monétaire, donc réduire l'inflation un maximum, c'est pareil. Alors du coup, on a l'apparence d'une stabilité parce qu'on peut afficher un taux d'inflation faible. Mais cette stabilité se paye sur la durée par l'absence d'une vraie croissance et l'absence surtout d'une diversification des productions et des exportables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 10 pays, je crois, sur 14 qui comptent parmi ce qu'on appelle les pays les moins avancés parce que à l'arrivée, avec tous les beaux chiffres qu'on a, on a des beaux taux de change effectifs réels, on a une stabilité monétaire, on a une inflation faible, d'accord, mais à l'arrivée, on voit qu'on ne change pas de catégorie de développement.
Et puis l'ancrage du franc CFA à l'euro pose un certain nombre de problèmes à cause de la dissymétrie entre les économies européennes et africaines également, Fanny Pigeot.
Oui, puisque effectivement, la politique monétaire de la zone des deux unions monétaires, on va dire, de l'Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, sont calquées sur celles de la Banque centrale européenne, ce qui veut dire que ce qui vaut pour l'Allemagne vaut aussi pour un pays comme le Niger ou la Centrafrique, qui sont parmi les plus pauvres du monde, et on comprend bien que ça pose un réel problème.
Concrètement, quand l'euro monte, ça décourage par exemple la production locale en la rendant plus chère que les produits importés?
Oui, puisqu'une bonne partie des productions des pays en question sont libellés en dollars, et donc dès qu'il y a eu appréciation entre l'euro et le dollar, ou l'euro devient plus fort que le dollar, effectivement ça baisse le niveau des recettes de leurs exportations.
C'est ce qui avait provoqué les émeutes de la faim à la fin des années 2000, et notamment la filière risicole qui avait été très touchée.
Il y a eu effectivement, oui, ou même la filière coton au milieu des années 2000 au Burkina Faso qui s'est effondrée à cause de cette appréciation de l'euro par rapport au dollar.
Et la conséquence, c'est que les pays africains n'ont pas les moyens de faire jouer à la monnaie un rôle actif dans leur économie. C'est-à-dire seulement un rôle de justement maintenir l'inflation à un niveau acceptable, si je puis dire.
Voilà, c'est ça. Ils n'ont aucun moyen de s'ajuster via le taux de change, puisqu'il est fixe par rapport à l'euro. Donc ils ont un certain nombre d'instruments qu'ont d'autres pays plus souverains sur le plan monétaire auxquels ils n'ont pas accès. Et pour des pays comme eux, qui sont des pays en développement, ça pose un certain nombre de problèmes et qui sont en plus confrontés à beaucoup de chocs externes. C'est pour eux, on se rend compte bien que le franc CFA est un handicap pour leur développement.
Il y a eu des statistiques du FMI qui montrent que les États d'Afrique subsaharienne opérant en change fixe ont enregistré depuis 2000 un taux de croissance économique inférieur de l'ordre de 1 à 2 points par rapport à ceux justement ayant un taux de change flexible. Et puis il y a un autre handicap pour les économies africaines qu'on a cité tout à l'heure, le principe de libre transfert qui semble avoir pour effet de drainer les ressources africaines vers le reste du monde. Comment est-ce que ça s'opère, ce mécanisme, Martial Zebelinga, et quelles conséquences?
Là encore, justement, vous savez, c'est un mécanisme. Ça fait partie de ce qu'on des mécanismes qui existent depuis 1939. Vous voyez, c'est pour dire que quand vous avez un arrangement institutionnel, un ensemble d'institutions qui a été conçu pour que la colonisation se déroule bien, eh ben il est évident que on peut pas garder les mêmes outils pour que les pays indépendants diversifient leur base productive ou s'épanouissent. Vous voyez, c'est vraiment assez simple. Donc, le but de la colonisation, c'est de dire, voilà, nous voulons que dans toutes les colonies, on ait une homogénéité monétaire. D'accord? Donc, on va avoir une monnaie au centre. C'est la monnaie de la métropole. Toutes les autres monnaies se définissent par rapport à la monnaie de la métropole de façon idéalement fixe. Que ça ne bouge pas. Et puis ensuite, ceux qui sont dans les colonies pourront passer d'une colonie à l'autre, par exemple. Donc, ils auront la liberté de transférer leurs capitaux.
De rapatrier leurs bénéfices.
Et puis de changer aussi d'endroit. Vous avez les brasseries, par exemple, qui vont se retrouver dans tous les pays de la colonie. Donc, ça marche pour le système colonial, le système impérial.
Et sans toucher à leurs devises aussi pour la France. Ça lui évite de débourser aussi les devises.
C'était extrêmement important, surtout avant l'euro. Parce que c'était une économie de devises que de pouvoir acheter directement dans les pays africain, acheter directement des matières premières qui, en dollars, auraient coûté beaucoup plus cher. Donc, vous voyez que quelque chose qui fonctionne dans une logique impériale et coloniale ne va plus fonctionner dans la logique des pays indépendants, puisque en réalité, ces sommes d'argent, ces profits qui auraient pu être réinvestis localement, il y a des pays où vous ne pouvez pas sortir de l'argent comme ça, en Éthiopie ou ailleurs. Donc, vous êtes quand même obligé de faire circuler cet argent de façon locale, et donc ça génère du crédit, ça génère de l'activité. Et là, en fait, on n'a pas ça, on a plutôt de l'argent qui ressort des pays, en tout cas des économies domestiques africaines. On a également des tendances à de la fuite de capitaux, puisque c'est difficile après de contrôler tout ce qui va se passer. Et donc, on a des économies qui sont un peu des passoires.
Alors justement, face à cette dépendance, quelles sont les solutions qui sont envisagées? Est-ce que cela passe par une réforme de ce franc CFA, ou est-ce qu'il faudrait carrément sortir de la zone franc, Martial Zebelinga? Il y a beaucoup de solutions qui sont envisagées.
Il y a beaucoup de solutions qui sont envisagées, il y a des réflexions qui sont en cours, mais si, je dirais dans l'ordre, un aspect qu'on n'aborde pas toujours ou trop peu souvent quand on est dans le domaine de l'économie, parce qu'on pense que l'économie c'est isolé du reste du monde, et j'appelle ça de l'économisme, mais ça fonctionne pas. D'un point de vue purement démocratique, on ne peut pas avoir une monnaie qui ne passe pas par un minimum, si vous voulez, par un processus démocratique. On a vu que l'Europe est passée la France du franc à l'euro. Il y a un processus référendaire.
Des questions qui se posent aussi en Europe sur la légitimité de la Banque Centrale Européenne.
Pourtant, il y a eu quand même un référendum, pour vous dire. Donc, la première chose, c'est qu'on ne peut pas avoir une monnaie qui s'affranchisse de la volonté des peuples, la volonté des experts locaux, la volonté des communautés et puis de la société civile. Donc moi je pense qu'en termes de principe, il faut commencer par là. Je crois qu'à terme, de toutes les façons, et à court terme dans mon point de vue, c'est un arrangement institutionnel qui n'a que trop duré, il n'est pas adapté. Et il ne va générer, à mon sens, à terme, que des aigreurs et, je dirais, des effets externes négatifs. C'est-à-dire que les gens vont lui mettre tout sur le dos, alors qu'il faut aussi dédramatiser. L'Algérie est sortie de la zone franc, elle continue d'avoir des rapports avec la France, le Maroc est sorti, la Tunisie, les pays du Mékong sont sortis, ils ont des rapports avec la France. Et même la France aujourd'hui, elle a plus de rapports économiques, on s'entend, avec, je ne sais pas moi, l'Angola ou le Nigeria, qu'avec des pays de la zone. Donc il faut aussi que aussi bien les Africains que les élites françaises, acceptent ce choc à la fois démocratique et décolonial, qui consiste à se dire, ce n'est pas parce qu'on n'aura plus le franc CFA, voilà, comme adhésif impérial et colonial, que la relation avec l'Afrique sera terminée.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi aujourd'hui de nous raconter une histoire, une sorte de conte moral rapporté par le philosophe Grégoire Chamaillou.
Mais oui, alors que le gouvernement a annoncé la semaine dernière la signature d'un pacte national visant à limiter la pollution par les emballages, il était intéressant de revenir sur la relation longue et contrastée qu'entretiennent les industriels et le plastique. Il faut dire que l'initiative du gouvernement est présentée comme une petite révolution. Une douzaine de distributeurs et d'industriels, parmi lesquels Coca-Cola, Danone, Auchan ou encore Carrefour se sont ainsi engagés à limiter leur usage de plastique en éliminant les emballages jugés inutiles d'ici à 2025, en favorisant le réemploi et l'usage des matériaux recyclés. En clair, les industriels s'engagent pour la planète et tiennent à le faire savoir. Le problème, c'est que ces engagements pris par des acteurs privés, aussi louables soient-ils, ne remettent pas en cause le modèle actuel de production et de consommation. On continue de concevoir des objets pensés comme des déchets en puissance sans véritablement combattre le mal à la racine.
Or, comme l'explique Grégoire Chamaillou, il n'en a pas toujours été ainsi.
Non, il fut un temps, jadis, où notre système économique n'était pas tout entier fondé sur le triptyque acheter, consommer, jeter. Le philosophe prend ainsi l'exemple particulièrement éclairant de la bouteille en plastique aux États-Unis. Pendant très longtemps, le contenant normal des boissons en tout genre était la bouteille en verre consigné que les clients étaient amenés à rapporter au magasin pour récupérer quelques centimes par bouteille et surtout permettre leur réusage. Mais au tournant des années 1930, les industriels du secteur décident de changer les choses et de remplacer ces bouteilles en verre consigné par leur équivalent en plastique et par une toute nouvelle invention, la canette en métal.
Un changement qui permettait de réduire drastiquement les coûts liés à la collecte et au reconditionnement des bouteilles de verre.
Exactement. L'espace d'une trentaine d'années, la transformation est vertigineuse. On passe entre 47 et 71 de 85% des bières vendues en bouteilles à moins de 25%. Qu'importe si les canettes et autres bouteilles jetables viennent fleurir l'asphalte et le caniveau, l'époque n'est pas à la préoccupation écologique mais à la liberté de consommer et de jeter. Une publicité de l'époque est particulièrement parlante. On voit deux hommes en train de boire une bonne bière au bord d'un lac. Le premier lève le coude avec satisfaction. Le second s'apprête à jeter sa canette dans la nature sans se poser la moindre question.
Peu à peu, néanmoins, les citoyens, les associations et les pouvoirs publics vont commencer à se mobiliser contre cette invasion des déchets.
Absolument. Au début des années 50, les initiatives se multiplient pour obliger les fabricants à revenir à la consigne. Une première loi allant dans ce sens fut votée dès 1953 dans le Vermont, prenant peur face à ce précédent qui risquait de se transformer en fièvre régulatrice, les industriels décidèrent alors de répliquer pour défendre leurs intérêts. Dès 1953 fut créé ainsi l'organisme Keep America Beautiful, chargé d'expliquer à grand renfort de spots publicitaires les moyens de protéger l'environnement au quotidien. Recyclage, tri, engagement citoyen, tout fut mis en œuvre pour montrer l'importance de ces actes individuels porteurs d'un changement global.
Pourtant, Keep America Beautiful n'a rien d'une association écologiste.
Non, c'est un consortium rassemblant les professionnels de la canette et de la boisson comme Coca-Cola ou l'American Can Company. Ainsi, comme l'explique Chamaillou, au moment même où les industriels démantèlent le système de la consigne et prennent des décisions structurellement anti-écologiques, ils en appellent à la responsabilité écologique des consommateurs. Un coup de force politique d'une rare habileté qui conduisit à basculer durablement la faute du côté de la consommation. Et si aujourd'hui les industriels semblent retrouver le sens de leur responsabilité, on peut néanmoins déplorer le fait que cela passe par un timide encouragement du recyclage plutôt que par un véritable retour au réusage et à la consigne, car le meilleur déchet, c'est encore celui que l'on ne produit pas.
On se quitte avec le chanteur burkinabé Victor Démé et son John Maya. Merci beaucoup Martial Zebelinga et Fanny Pigeot de nous avoir aidé à démêler les ambivalences du franc CFA. On mettra toutes les références de vos ouvrages respectifs sur le site. Demain, c'est le rôle contesté à des entreprises françaises en Afrique que l'on examinera. En attendant, vous pouvez réécouter nos émissions à vie sur notre site franceculture.fr et sur toutes les applications de podcast. Retrouvez-nous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.